2050.
Tu penses que ce serait bien,
2050, toi? #2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes et en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. #2050, c'est parti. Bonjour Daniel.
Bonjour Rebecca.
Merci d'avoir accepté de participer à #2050 le podcast pour parler de cet horizon plus ou moins lointain, une trentaine d'années. Daniel, tu es directeur d'un organisme de formation, l'AFPA, mais on ne va pas parler ensemble de formation parce que tu es aussi auteur. Tu as écrit plusieurs ouvrages, et notamment le dernier, Négropolitain, un roman. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce roman, de ce livre?
Oui, Négropolitain, c'est un roman qui se donne pour mission, pour ambition de relater une cinquantaine d'années de relations tumultueuses entre la Martinique et la métropole, à travers les pérégrinations d'un personnage principal, qui est donc un négropolitain, c'est-à-dire une personne qui est née, qui a vécu, qui a grandi en métropole, mais qui est d'origine antillaise, et qui porte donc en lui et sur sa peau différentes contradictions, différents paradoxes, puisqu'il a le signe physique d'une appartenance, d'une appartenance externe. Et quand il se retrouve en métropole, il lui est renvoyé régulièrement tout au long de son parcours, et qu'il n'est pas comme les autres, avec éventuellement des propos discriminants, du racisme quotidien et ordinaire, surtout que ça commence dans les années 80. Mais pour autant, quand il se retrouve en Martinique pour revoir sa famille, il n'est pas plus considéré comme un vrai Antillais. En fait, c'est ça le négropolitain. Hein. Donc négropolitain, c'est un mot composite. Qui peut être autant une insulte qu'un mot complice, ce que j'exprime dans le prologue. Et c'est un mot qui est ambigu, mais en tout cas qui désigne quelque chose de compliqué à exprimer, puisque finalement c'est être à la fois deux univers, deux références, de creuser, mais finalement d'aucun. Et donc en fait c'est comme une troisième voie qui s'appelle le métissage. Derrière Négropolitain, Tony Delcham en a beaucoup parlé récemment, Jean-Claude Barny à travers plusieurs films l'a également très 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 bien évoqué, c'est toute la difficulté à être, finalement, et à trouver ses repères, en sachant que dans le regard de l'autre, on peut avoir le sentiment de ne pas toujours être à sa place.
Oui. Et c'est vrai que le regard de l'autre est pour beaucoup dans le fait d'être présent à soi, de se trouver.
Et absolument, c'est d'abord le problème de l'autre, finalement, la différence.
Oui, c'est ça.
Puisque finalement, la personne elle-même se vit telle qu'elle est, et sans pour autant en faire un problème. Mm-hmm. Alors ça devient... Ce qui était intéressant dans ce roman, c'est que c'est un roman d'initiation. Un roman qui fait hommage également à des grands auteurs antillais. Hein. On va retrouver, convoquer pêle-mêle, Césaire, Confiant, Zobel, Chamoiseau, bien sûr, et Tony Delcham, qui est au cœur des choses, puisque Tony Delcham, avec Xavier, le drame d'un émigré antillais, qui a été pour moi un livre fondamental, m'a permis de comprendre ce mécanisme de déracinement, d'une part. Mais plus encore, et c'est le propos, c'est un des propos de Négropolitain, plus encore de comprendre physiquement et à son corps défendant que, qu'on le veuille ou non, qu'on est lié à l'esclavagisme, au code noir, qu'on est lié à cette histoire dramatique, terrible qui s'est étalée sur deux siècles et demi. Et que même si on se sent affranchi de ces réalités, par la simple, comme le dit le personnage, par la simple petite goutte de café dans le lait, rappelle en permanence et interdit d'oublier qu'on est lié à tout ça. Donc évidemment, donc l'idée, c'était de partager, d'aller plus loin et de remonter un peu aux sources de la Martinique moderne, depuis la départementalisation. Et puis le grand mouvement d'immigration lié au BUMIDOM, au Bureau d'immigration de la main-d'œuvre des DOM-TOM, qui a vidé l'île de sa jeunesse et de son énergie pour implanter des familles en région parisienne notamment, puisque là, en l'occurrence, ça se passe à Saint-Denis. Et cette saga, hein, puisque c'est une saga familiale, hein, ça se passe sur des générations, depuis les grands-parents qui sont les premiers à avoir immigré jusqu'au personnage principal. Je trouvais que c'était intéressant de la partager parce qu'elle est mal connue. Le rôle de la résistance antillaise, qu'on appelait la dissidence, hein, qui était en fait une dissidence vis-à-vis du préfet Robert, hein, qui avait mis en coupe réglée toute l'île avec un régime très dur, peut-être encore plus dur que le régime de Vichy duquel il dépendait. Mal connu les dégâts causés par l'immigration encouragée par le BUMIDOM, avec les dissensions que ça a créées dans les familles, puisque les familles ont été un peu déchirées, les gens qui ont bougé ont été mal compris. Le retour en vacances ou le retour au pays natal n'allait pas de soi. Et puis alors pour les descendants, les deuxièmes et les troisièmes générations, comme c'est le cas d'ailleurs pour par exemple nos compatriotes d'origine nord-africaine, hein, quand ils retournent au bled, d'ailleurs Jamel a fait un film là-dessus, se rendre compte que ce lieu soi-disant originel, ce creuset imaginé, n'est justement qu'imaginaire, parce que ça se passe pas forcément très bien, puisque les codes, on les a pas.
On les a pas, on n'est ni d'ici, ni d'ailleurs.
Absolument, on arrive avec son accent parisien, avec sa façon de s'habiller, avec un regard malgré tout un peu exotique qu'on pose. Voilà, et alors on prétend en être, mais on n'en est pas, et on est débusqué. En fait, pour pouvoir passer, il faudrait ne pas bouger et ne pas parler. Et à ce moment-là, juste sur la mine physique, on pourrait considérer qu'on en fait partie. Mais dès qu'on l'ouvre,
ça y est. Dans l'attitude mais corporelle,
absolument. Et d'ailleurs, dans Négropolitain, il y a une anecdote, puisque le cousin du personnage principal, qui lui vit aux îles, lui prend comme exemple, dès que tu danses, quand tu danses, ça va plus. T'es comme nous, t'es martiniquais, t'es bronzé, tout ce qu'on veut, mais dès que tu danses, ça va plus.
Alors je voudrais que ce livre, ça n'est pas un premier roman. Tu avais écrit un recueil de poésie, Les Chapelles Liquides, un autre roman plus d'aventure. Cette histoire avec l'écriture, tu l'as depuis tout petit. Et c'est pour ça que tu as choisi que nous parlions ensemble de littérature, justement. Alors la littérature et tout l'écosystème qui est avec le livre, les lieux où on découvre les livres. Et justement, tu as choisi un endroit très chouette pour notre conversation, puisque c'est une librairie qui s'appelle la Compagnie des Livres, à Vernon. Je remercie d'ailleurs
Nathalie
voilà, d'avoir accepté de nous accueillir pour cette conversation. Aujourd'hui, toi qui écris, quel regard as-tu sur la littérature aujourd'hui, en sachant que moi, tel que je la vois, c'est que on entend tous les ans au mois de septembre, au mois de janvier, les journalistes qui nous disent « Oh, encore de plus en plus de livres pour cette rentrée littéraire, tout le monde peut plus ou moins se faire éditer, alors pas chez les grandes maisons, mais bref, une profusion, et en même temps, on dit que les gens lisent de moins en moins. Alors comment elle va la littérature aujourd'hui en 2017 ?
Alors, au risque de te décevoir, j'ai pas d'avis et puis je m'en fous, quoi. Alors, dépassons le stade de la réaction primaire. Mais je crois que voilà, il y a une offre. Les gens sont grands, prennent leurs responsabilités. À chacun de savoir piocher, de savoir butiner, de se tenir informé, de comparer. Alors c'est vrai que ça remonte aussi à l'éducation, au bain culturel dans lequel on est plongé pour faire preuve de discrimination, de vigilance, pour être attentif, aiguiser, fabriquer, former son goût. Mais chacun a ses valeurs, chacun est attiré par des sujets, par des thématiques, par des façons d'exposer les nouveautés.
Donc tant qu'il y aura un lecteur, la littérature garde toute sa place et son sens.
Tout à fait. Pour moi, ce qui est important, c'est que quelle que soit la quantité, quel que soit le support, c'est que le sens et le savoir circulent. Mmh. Voilà. Hein. Des gens ont des choses à dire, des gens ont des choses sont en recherche. Voilà. Ça peut matcher. Pour que ça se rencontre, tout le monde a des efforts à faire. Évidemment, si on est passif devant ça, on peut se sentir complètement dépassé. Mais si on est actif, proactif, qu'on a le goût de ça, qu'on a la gourmandise, la faim de ça, eh bien, chacun va pouvoir trouver ce qu'il cherche. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est quand il trouve ce qu'il ne cherchait pas. Mm-hmm. Parce que là, ça occasionne des découvertes. C'est aussi ça, la profusion. Si tout était fléché et tout contingenté, ce ne serait pas très, très, très marrant, ce ne serait pas une aventure. Moi, je trouve que la littérature, c'est une aventure.
Autant pour celui qui tient la plume que celui qui lit.
Oui, je le vois comme ça. Et donc, toute cette production, elle est importante, mais en même temps, si on la relativise par rapport à d'autres activités, c'est pas non plus si important que ça. Attention, c'est un discours de critique, un discours de professionnel. C'est important, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Et puis, dans l'univers du livre, il y a plein de choses différentes. Est-ce qu'on parle de romans, il y a des livres utilitaires, il y a les manuels, il y a les livres de cuisine qui sont pour le grand public, les livres techniques, les livres qui sont liés plutôt à des valeurs, à des transmissions autour d'essais. On ne peut pas épuiser le sujet, il faut savoir de quoi on parle. Moi, c'est vrai que je suis plutôt sur le roman. C'est ce que je connais le mieux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc effectivement, j'ai tendance à un peu moins regarder d'autres types de livres. Et la question est de se dire, bon, à partir de quand il y a littérature ? Je considère que l'écriture et la lecture sont deux axes essentiels qui permettent effectivement de se confronter, soit en produisant et en exprimant soi-même ce qu'on nous recherche, nos réflexions, nos valeurs, ce qu'on a envie de partager, de diffuser, voilà. Mais également d'aller chercher à lire, à comprendre, à dominer et à digérer ce que les autres aussi ont à nous offrir.
Alors tout à l'heure, je reviens sur un mot que tu as utilisé. Tu t'es repris au tout début pour parler de ton livre Négropolitain. Tu as dit sa mission et après tu t'es repris son ambition.
Son ambition, oui.
Alors ça m'intéresse cette expression de sa mission. Est-ce que la littérature, justement, elle a une mission?
Est-ce qu'elle a une mission? Ce serait immodeste de ma part de le déclarer comme tel. Ce qui est certain, me semble-t-il, c'est que certains auteurs peuvent peut-être se donner une mission, ou en tout cas on peut leur affecter cette mission parce qu'ils ont un verbe et un message fort, et qu'effectivement on peut juger que certains messages doivent être passés. Ça s'appelle aussi du militantisme. C'est promouvoir ses idées. Promouvoir ses idées, on peut le faire à travers le cinéma, le théâtre, à travers des manifestations dans la rue, à travers un vote politique, et on peut le faire également à travers la chose écrite. Donc là, on peut dire qu'il y a mission. J'imagine que certains auteurs se donnent vraiment une mission. J'ai fait cette hésitation entre mission et ambition à travers Négropolitain, parce qu'effectivement, oui, il y a un propos militant contre la discrimination, pour le vivre ensemble, pour se rendre compte, comme on le disait en amont, que finalement la différence, c'est surtout l'affaire du regard de l'autre. Pour expliquer que c'est bien beau de dire que tolérons nos différences, tout ça c'est un langage un peu angélique, mais que au-delà de ça, pour comprendre et pour dominer, pour dépasser surtout ces problématiques, eh bien, il faut se plonger un peu, aller aux sources. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a ambition ou qu'il y a mission, c'est que dans Négropolitain, il y a une perspective, il y a une entrée romanesque, qui est le principal ressort, mais il y a des éléments historiques, des éléments politiques pour contribuent à leur niveau à expliquer comment on en arrive là. Quand on constate un certain racisme, malheureusement les événements récents nous ramènent toujours à cette réalité, mais quand on constate la survivance d'un racisme, notamment, c'est pas si simple avec des gentils et des méchants. Il y a aussi des contingences historiques et culturelles qui ont conditionné et qui ont permis, dans un système politique donné, que ces choses-là puissent arriver. C'est pas facile de pas être raciste. Donc c'est aussi ça que ça cherche à faire. C'est un propos complexe, ouais. mais je pense que comme l'explique et le défend Edgar Morin, il faut aller sur la complexité, faut l'affronter, faut surtout pas tourner le dos. Et justement parce que c'est complexe, c'est là qu'il faut taper, faut aller à la mine, hein. faut taper dedans.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que la société veut soit essentialiser, soit simplifier, et dans la simplification, et ben les nuances, elles disparaissent, donc c'est
voilà.
Le noir, le blanc.
Voilà. Donc je pense qu'en tant que métisse, on peut avoir des choses à dire. Alors après, elles sont écoutées, elles ne le sont pas, elles sont comprises, elles ne le sont pas. Bon, qu'importe, chacun trouvera l'écho ou la résonance. Mais le croisement, le carrefour culturel, parce que finalement, un métis, c'est ça, un métis, c'est un carrefour culturel. Hein. À lui tout seul, c'est la croisée de plein d'univers et de plein d'histoires qui convergent. C'est ça qui me semblait intéressant.
Peut-être que chaque livre ou chaque roman propose un carrefour culturel. Une rencontre entre des personnages, on a toujours des mondes différents qui s'entrechoquent, qui se comprennent ou pas.
Ouais. Et alors moi c'est ce qui me motive et qui m'a toujours c'est un des éléments très forts de mon amour de la chose littéraire, elle est là. Dans mes grandes passions, c'est Albert Cohen qu'on ne présente pas, mais qui donne à comprendre. Comment le rapport entre bourreau et victime s'établit, mais qui donne à comprendre aussi comment le verbe est une échappatoire et devient un objet d'émancipation. Enfin, un vecteur d'émancipation. Albert Cohen, il y a Belle du Seigneur qu'on connaît, qu'on adore, mais moi je pense plutôt à Au vous, frères humains, le livre de ma mère, les carnets 78, dans lesquels il y a énormément de réflexions très profondes. Et quand il nous donne à comprendre comment il comprend et découvre qu'il est juif, alors que jusqu'à ce jour, où ce n'était pas un problème. Il a fallu qu'on lui dise qu'il l'était, et il a fallu qu'il s'interroge sur mais au fait c'est quoi être juif et de comprendre qu'il l'était déjà, qu'il l'était toujours, mais qu'il ne le savait pas, et que ce que ça voulait dire dans les années 20, voilà. Donc Albert Cohen, c'est ça, et c'est évidemment bien autre chose, puisque c'est aussi un rapport à la langue, hein, une richesse merveilleuse qui est une source d'inspiration, mais qui est aussi une source simplement de plaisir.
Alors faisons Daniel le saut vers 2050. La littérature aujourd'hui, comme tu l'as dit, qui nous accompagne pour être au monde, je sais que cette expression a du sens pour toi, en 2050. Alors, est-ce que la littérature aura toujours cette ambition, cette mission? Est-ce qu'elle sera toujours autour de nous? Sous quelle forme? Comment tu imagines les choses? Je sais très bien qu'il n'y a aucune vérité, mais toi, comment tu te projettes? Comment tu imagines?
Ce que j'imagine, c'est que elle est immortelle. Elle est immortelle parce qu'elle est un ressort de vie, elle est une alternative à d'autres vies. On avait évoqué précédemment Fernando Pessoa, qui disait que la vie ne suffit pas. Et que la littérature sert à nous permettre de nous transcender, de nous connecter sur d'autres mondes et de vivre d'autres vies. Et ça, je crois que ce besoin, on l'aura toujours.
Justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que la vie ne suffit pas, la littérature permet de l'augmenter, j'utilise à dessein ce mot augmenter, parce qu'aujourd'hui, les outils du numérique nous proposent de vivre des expériences par la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On sait que nos sens vont être activés différemment, l'intelligence artificielle, etc. Donc peut-être que ces outils-là nous apporteront ce supplément de vie et que la littérature ne sera plus la clé ou le principal vecteur justement de ça.
Je pense qu'elle sera toujours au cœur. C'est les formes qui vont être différentes. Et là, on reviendra sûrement à relire Barthes, qui a une entrée, qui a une approche sur la polysémie du texte, dans le plaisir du texte. Mm-hmm. Il nous montre bien que la forme et le fond sont autant à prendre en considération et que l'un n'a pas plus forcément de valeur que l'autre. Et qu'il y a des interactions entre la forme et le fond comme une forme de dialectique autour de cette polysémie. Et je pense que tous les nouveaux supports numériques qui permettent de la vitesse, qui permettent de l'accessibilité, qui permettent de l'auto-édition, de l'auto-production, c'est quelque chose qui va permettre au contraire à la littérature de faire un pas de plus en avant. Donc je ne pense pas qu'elle disparaîtra, qu'elle mourra, moi je ne crois pas du tout. Ce que je pense, c'est que tout simplement elle va évoluer. Et surtout, il y a peut-être une bonne nouvelle dans tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est peut-être dans un moment, puisque là on est dans une transition, hein, on est dans un moment charnière, ce n'est pas encore advenu, c'est en train de s'accomplir. Peut-être que ce sera l'avènement d'une vraie démocratisation. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la littérature, avec un grand L, c'est aussi un des supports culturels qui peut être aussi excluant. Mm-hmm. Ça peut même être intimidant. Mm-hmm. Et peut-être que des personnes qui, il y a quelques années, ne se seraient pas autorisées soit à écrire, soit à lire certaines choses, avec ces nouveaux supports, grâce à ces nouveaux supports, auront le déclic, auront l'autorisation, se permettront de le faire, et donc découvriront des choses merveilleuses, produiront elles-mêmes des choses merveilleuses, parce que plein de gens ont des choses à dire, il n'y a pas que les auteurs patentés qui ont des messages à faire passer. Voilà. Donc on fait un peu descendre la littérature de son piédestal, mais avec respect.
Ouais. Et donc on pourrait encore plus aller de l'avant dans ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire qu'une histoire, un roman pourrait se commencer avec quelques pages à feuilleter, se passerait par un temps de réalité virtuelle, et puis ensuite la
là,
suite
vous parlez
dans le livre, on écoute.
Là, tu parles des livres de la littérature enrichie, quoi, du format enrichi.
Oui, voilà, c'est ça, que de multiples expériences permettent...
Ça peut être effectivement une forme. Littérature. Ouais, absolument, oui, ça peut être une forme, effectivement. Après, on a notre éducation. Alors, il y a aussi une affaire de génération. Mm-hmm. C'est vrai que moi, dans ma génération, en tout cas pour ce qui me concerne, les mots sur le papier, quand ils sont produits avec talent, avec finesse, avec profondeur, sont très amplement suffisants et à mon avis, enrichissent davantage que l'image ou que le son qui finalement s'impose et qui ne permettent pas la magie de la littérature, qui est qu'à partir des mots, vous créez le monde, vous créez ce personnage. Alors, on a des auteurs qui décrivent très très bien les personnages physiquement, mais on en a d'autres qui les esquissent, et c'est à vous de faire le boulot. Idem pour les décors, idem pour les ambiances, les sons. Quand même, quand un auteur arrive à vous rendre un climat atmosphérique, je parle, où se confondent des odeurs, des bruits, une chaleur... à partir de mots, on voit bien là qu'il y a quelque chose de qui est presque magique là, qui se propage.
Ça me rappelle mon sujet de bac de français, l'écrivain est-il un magicien?
Eh ben vous voyez, moi je savais pas. Tu vois, j'étais.
Sur les nouvelles formes aussi, on voit aussi apparaître à travers les réseaux sociaux des exercices d'écriture, par exemple de nouvelles, de poésie, qui respectent le format de Twitter, par exemple en 140 signes. Et alors je dis pas que ça c'est de la littérature, mais en tout cas la littérature peut et sait s'adapter.
Faut pas être sectaire sur les formes. Me semble-t-il, n'être ni sectaire ni dogmatique. Il n'y a pas nécessairement une dégradation. Ouais. Moi, quand on me parle de littérature, de livres enrichis, j'ai un premier réflexe de méfiance, parce que je pense que cet enrichissement est une chimère. Parce qu'au contraire, je pense que ça limite les horizons. Mmh. Encore une fois, parce que ça impose au lecteur, ça impose
une interprétation, quelque chose.
Mais en même temps, voilà, on est à la croisée là, de l'audiovisuel, donc on est peut-être sur une forme nouvelle. Est-ce que ça s'appelle littérature? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment important? Ce qui est important, c'est que la littérature survive à tout ça, et je crois qu'elle y survivra, et qu'elle se repositionnera, justement, parce que peut-être que ça libère des espaces, peut-être que ça donnera des sens, des directions vers lesquelles aller. C'est pas, y a pas d'automaticité sur le résultat. Maintenant, je parlais de Belle du Seigneur, je pourrais parler de Dalva, de Jim Harrison, des monuments comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait de l'image? Qu'est-ce qu'on ferait de son? Qu'est-ce qu'on va rajouter à ça? Bon, d'abord, dès l'origine, c'est pas conçu pour, de toute manière. Mais après, effectivement, si on est dans une démarche qui conceptualise dès l'origine le fait qu'on va croiser du texte, du son, et... pourquoi pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les formes nouvelles, la modernité et même la postmodernité du numérique et de tout ce que nous permet la technologie. Il ne faut pas l'opposer. Il faut juste se dire que ça exige peut-être davantage d'esprit critique, davantage de vigilance. Parce que du coup, avec cette capacité cet accès rendu facile et cette capacité à déposer l'un et l'autre nos petites productions, nos petites ou nos grandes productions, quelle que soit la forme, bah, ça fait qu'il faut s'y reconnaître. Et là-dedans, le meilleur va côtoyer le pire.
Alors justement, on est aujourd'hui dans une librairie et le travail, l'amour du libraire pour le livre fait que justement, il conseille, il guide. Les personnes vers des ouvrages qui feront sens pour eux, qui feront circuler le sens, comme tu disais. Est-ce qu'en 2050, vu que tout se dématérialise de plus en plus, est-ce que la librairie sera encore un lieu physique qui existera dans nos villes?
Je le souhaite, en tout cas. Je pense que ça existera, avec peut-être d'autres missions. Mais ça, le besoin du livre, le besoin du papier, le besoin du contact avec le libraire, là encore, n'est pas opposable au fait de consommer du e-book ou de surfer sur Internet pour aller chercher du roman ou autre chose. C'est pas opposable. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre bien que les lecteurs d'e-book sont aussi des gens qui fréquentent les librairies. Ce qui est important, c'est d'être lecteur, finalement. Voilà. Bon. Donc, le libraire, il prendra certainement... le libraire et la librairie prendront peut-être d'autres rôles, peut-être la capacité à faire des livres, à produire des livres à la demande, avec une impression immédiate in situ, l'importance du conseil également pourra le permettre. Mais le lieu où on fréquente du savoir, on fréquente du livre, regardez ici cette ambiance, elle est éternelle. Et vous rappelez que Sagan disait écrire, c'est comme un rendez-vous amoureux, dangereux. Bon, mais je crois que aller chercher un livre, il y a ça aussi dedans.
Ouais. Il y a ce rendez-vous et voilà, une rencontre qui peut être inattendue.
Absolument, rendez-vous qu'on donne avec les auteurs qu'on va découvrir. On est venu pour chercher le dernier Jean-Paul Dubois, le dernier Olivier Adam, le dernier Philip Roth. Et on va sortir peut-être avec bien autre chose. Mais c'est aussi un rendez-vous avec soi-même. C'est aussi un rendez-vous avec soi-même. Parce que finalement, à lire les quatrièmes, à regarder les couvertures, à ouvrir un feuilleté, à échanger avec... Il y a des Nathalie formidables dans ce genre de librairie. Et échanger avec fait que... On repart du lieu en ayant vécu un moment d'enrichissement, avec des idées. Et puis ce qui est important, c'est de se sentir toujours en retard de ces lectures. C'est parce que là, ça veut dire qu'on les a, voilà, on prend conscience qu'on n'a jamais tout lu et qu'il y a toujours des choses à conquérir. Et c'est très, très motivant.
Ouais, et donc, dès qu'on sort finalement d'une librairie, on a déjà commencé à augmenter sa vie.
De toute façon, bien
c'est
sûr.
C'est le premier pas. Alors, pour finir cette conversation, Daniel, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Concernant la littérature.
Ouais.
Eh bien, écoute, le dernier propos qu'on a tenu ensemble, c'est mon vœu, hein, c'est que les formes nouvelles, loin de condamner ou de gêner le développement et le maintien des librairies traditionnelles, au contraire, leur donnent un autre souffle, une autre vie, avec peut-être des activités plus variées, peut-être un autre rôle social et culturel. Mais qu'en tout cas, ces deux développements, ces deux dimensions, ne se neutralisent pas et ne s'opposent pas l'une et l'autre, mais au contraire, arrivent à se compléter. Moi, c'est comme ça que je le concevrais.
Voilà.
Donc, finalement, une sorte de métissage, finalement, voilà, entre les formes, qui a un carrefour culturel. Voilà, et je pense que le livre, à ce titre, a de beaux jours devant lui. On peut le prendre par tous les bouts. Et on a vu que, de toute façon, les ventes, la part de marché de l'e-book se tasse. Ça montre bien que le livre fait plus que résister. Et à mon avis, il a de beaux jours devant lui.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour cette vision optimiste de cet avenir. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Hashtag 2050, le podcast. On se retrouve évidemment très très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle conversation. Et d'ici là, soyons toujours curieux.